William Shakespeare, La Sauvage apprivoisée, prologue. Les personnages. Un lord, Christophe Sly, chaudronnier ivrogne, l'hôtesse d'une taverne, un page, des comédiens, valet, piqueur, gens de service. Scène 1. Sur la bruyère, devant un cabaret, entre l'hôtesse et Sly. Sly, d'une voix avinée.
« Je vais vous étriller, ma parole !»
L'hôtesse.
« Au cep, vagabond !»
Sly.
« Vous êtes une gueuse. Les Sly ne sont pas des vagabonds. Regardez dans les chroniques. Nous sommes venus avec Richard le Conquérant. Ainsi, pas au casse, pas la brise. Laissez filer le monde, c'est ça !»
L'hôtesse. « Vous ne voulez pas payer les verres que vous avez cassés ?»
Sly. « Non, pas un denier, pas Saint-Géromini, va-t'en, va-t'en dans les glacés et réchauffe-toi. »
L'hôtesse. « Je connais mon remède, je vais chercher le quartenier. »
Sly. « Quartenier, vingtenier ou centenier, je lui répondrai la loi à la main, je ne bougerai pas d'un pouce, qu'il vienne, et poliment. »
Il s'affaisse à terre et s'endort. Fanfare de corps. Entre un lord, en habit de chasse, suivi de piqueurs et de valets. Le lord.
Piqueur, je te recommande de bien soigner mes chiens, surtout Frétillant. Le pauvre animal est tout enflé. Accouple Nébuleuse avec la Graque à large gueule. As-tu vu mon garçon comme argent a bien relancé? Au coin de la haie, quand tous les autres étaient en défaut? Je ne voudrais pas perdre ce chien-là pour 20 livres.
Premier piqueur.
Et Carillon le vaut bien, Milord. Il a aboyé au moindre écart du gibier. Et deux fois aujourd'hui, il a retrouvé la piste la plus éventée. Croyez-moi, c'est le meilleur chien.
Le lord.
Tu es un imbécile.
Si Écho était un peu plus leste, j'estime qu'il en vaudrait 12 comme Carillon. Mais fais-le bien souper. Éveille sur eux tous. J'entends chasser demain encore.
Premier piqueur.
C'est bien, Milord.
Le lord, apercevant Sly.
Qu'est-ce là?
Un homme mort ou ivre?
Vois donc, respire-t-il?
Deuxième piqueur.
Il respire, Milord. S'il n'était pas échauffé par la bière, ce serait un lit bien froid pour y dormir si profondément.
Le lord.
Quel monstrueux animal! Le voilà vautré comme un porc. Oh, mort sinistre, combien affreuse et répulsive est ton image!
Mais maître, je vais m'amuser de cet ivrogne. Qu'en pensez-vous s'il était transporté dans un lit, enveloppé dans des draps fins, et s'il se réveillait dans des bagues à ses doigts, un banquet délicieux devant son lit, et près de lui des gens en riche livrée? Ce mendiant-là n'oublierait-il pas qui il est?
Premier piqueur.
Certainement, Milord, je n'en doute pas.
Deuxième piqueur.
Il serait bien étonné en s'éveillant.
Le lord.
Ça lui ferait l'effet d'un rêve flatteur ou d'une chimérique hallucination. Allez, enlevez-le et ménagez bien la plaisanterie. Portez-le doucement dans ma plus belle chambre et ornez-la de mes plus voluptueux tableaux. Embaumez sa sale tête avec de tièdes eaux de senteur et brûlez des bois parfumés pour parfumer l'appartement. Procurez-moi un orchestre prêt, quand il s'éveillera, à faire entendre les sons les plus doux et les plus célestes. Et si par hasard il parle, offrez-vous vite et avec la plus humble et la plus respectueuse révérence. Dites-lui, qu'ordonne votre grandeur? Que l'un se présente avec un bassin d'argent, rempli d'eau de rose et jonché de fleurs. Qu'un autre apporte les guerres, un troisième un linge damassé et dise « Plaît-il à votre seigneurie de se rafraîchir les mains ?» Que quelqu'un se tienne prête avec une somptueuse garde-robe et lui demande quelle parure il veut mettre. Qu'un autre lui parle de sa meute et de ses chevaux et de sa chère milady que sa maladie désole. Qu'on lui persuade qu'il a été lunatique et s'il vous dit qu'il est un tel, dites-lui qu'il rêve et qu'il n'est rien moins qu'un puissant seigneur. Faites cela, mes amis, et faites-le avec naturel. Ce sera une scène plus que divertissante, si elle est menée avec discrétion.
Premier piqueur.
Milord, comptez sur nous. Nous jouerons notre rôle avec un zèle si vrai qu'il se croira réellement ce que nous lui dirons qu'il est.
Le lord. Enlevez-le doucement et mettez-le au lit, et que chacun soit à son poste quand il s'éveillera.
Des valets emportent Sly. On entend une trompette.
À un valet. Marot, va voir quelle est cette trompette qui sonne.
Le valet sort.
Sans doute quelque noble gentilhomme en voyage qui désire se reposer ici.
Le valet revient.
Eh bien, qu'est-ce ?
Le valet.
Ne vous déplaise, milord, ce sont des comédiens qui offrent leur service à votre seigneurie.
Le lord.
Dis leur d'approcher.
Entre les comédiens.
Compagnons, vous êtes les bienvenus.
Premier comédien.
Nous remercions votre honneur.
Le lord.
Vous proposez-vous de rester avec moi ce soir ?
Deuxième comédien.
S'il plaît à votre seigneurie d'accepter nos services.
Le lord.
De tout mon cœur.
Montrant le premier comédien.
Voilà un gaillard que je me rappelle avoir vu jouer une fois le fils aîné d'un fermier. C'était dans une pièce où vous faisiez si bien la cour à la grande dame. J'ai oublié votre nom, mais certainement ce rôle était habilement soutenu et joué avec naturel.
Premier comédien.
C'est de Soto, je crois, que votre honneur veut parler.
Le lord.
C'est vrai, tu étais excellent. Allons, vous êtes venu dans un bon moment. D'autant plus à propos que j'ai en projet un divertissement, où votre savoir-faire pourra m'être d'un grand secours. Il y a ici un lord qui veut vous voir jouer ce soir. Mais je doute fort de votre retenue. Je crains qu'en remarquant son maintien bizarre, car sa seigneurie n'a pas encore assisté à une représentation, vous ne soyez pris de quelque folle accès de gaieté, et que vous ne l'offensiez, car, je vous le déclare, messieurs, pour peu qu'il vous voie sourire, il se fâche.
Premier comédien.
Ne craignez rien, milord, nous saurons nous contenir. Fut-il le personnage le plus grotesque du monde ?
Le lord a un valet.
Va, drôle, conduis-les à l'office, et offre à chacun d'eux une cordiale hospitalité. Qu'il ne manque de rien de ce que mon château peut fournir.
Sortent le valet et les comédiens.
Le lord, continuant, a un autre valet. Toi, drôle, va trouver mon page Barthélemy et fais-le habiller des pieds à la tête comme une lady. Cela fait, conduis-le à la chambre de l'ivrogne. Appelle-le madame et témoigne-lui le plus profond respect. Dis-lui de ma part que s'il veut gagner ma faveur, il prenne les nobles manières qu'il a observées chez les grandes dames dans leur rapport avec leur mari. Qu'il ait avec l'ivrogne ses façons obséquieuses et que d'une voix douce, avec une humble révérence, ils lui disent « Que daigne ordonner votre seigneurie ? En quoi votre dame, votre obéissante femme, peut-elle vous montrer son zèle et vous prouver son amour ?» Et qu'alors, avec de tendres embrassades et des baisers tentateurs, la tête inclinée sur le sein de son époux, il verse des pleurs de joie, en voyant le retour à la santé de son noble seigneur, qui pendant 2 fois cette année s'est figuré n'être qu'un misérable et immonde mendiant. Et si mon page n'a pas ce don tout féminin de faire pleuvoir à volonté une averse de larmes, un oignon en fera la farce, et soigneusement enveloppé dans un mouchoir, lui donnera, en dépit de lui-même, un regard larmoyant. Fais exécuter cela avec toute la promptitude possible. Tout à l'heure, je te donnerai de nouvelles instructions.
Le valet sort.
Je sais que mon damoiseau usurpera à merveille la grâce, la voix, le port et le geste d'une femme de qualité. Il me tarde de l'entendre appeler l'ivrogne son époux, et de voir comment mes gens se retiendront de rire en rendant hommage à ce simple rustre. Je vais rentrer pour le faire la leçon. Peut-être ma présence suffira pour comprimer l'explosion de leur gaieté qui menace de dépasser les bords.
Tous sortent.
Scène 2.
Une chambre à coucher dans un château. On aperçoit Sly, revêtu d'une somptueuse robe de chambre. Des valets l'entourent, les uns portant de riches costumes, d'autres tenant à la main un bassin, une aiguière et autres objets de toilette. Entre le lord, habillé en laquais.
Sly. Au nom de Dieu, un pot de petite bière.
Premier valet.
Votre seigneurie veut-elle boire un verre de vin des Canaries?
Deuxième valet.
Votre honneur veut-il goûter de ses conserves?
Troisième valet.
Quel costume votre honneur veut-il mettre aujourd'hui ?
Sly.
Je suis Christopher Sly. Ne me qualifiez pas d'honneur ni de seigneurie. Je n'ai bu de ma vie du vin des Canaries. Et si vous voulez me donner des conserves, donnez-moi les conserves de bœuf. Ne me demandez jamais quel costume je veux mettre, car je n'ai pas plus de pourpoint que je n'ai de dos, pas plus de chausses que de jambes, pas plus de souliers que de pieds. Parfois même, j'ai plus de pieds que de souliers. Ou j'ai des souliers qui laissent voir mes orteils à travers l'empeigne.
Le lord. Que le ciel délivre votre honneur de cette humeur fantasque. Oh, se peut-il qu'un homme si puissant, de si grande naissance, jouissant d'une telle fortune et d'une si haute considération, soit possédé d'un si indigne esprit?
Sly.
Quoi? Vous voulez donc me rendre fou? Est-ce que je ne suis pas Christophe Sly, fils du vieux Sly de Bartonef, colporteur par naissance, faiseur de cartes par éducation, par mutation montreur d'ours, et présentement chaudronnier par état? Demandez à Maria Laquette, la grâce aubergiste de Wilmecote, si elle ne me connaît pas. Si elle ne dit pas que je suis sur son compte pour 14 deniers de pure ale, comptez-moi pour le plus fief et menteur de la chrétienté. Voyez, je n'ai pas le délire. Voici.
Premier valet.
Oh, voilà ce qui désole Milady.
Deuxième valet.
Oh, voilà ce qui accable vos serviteurs.
Le lord.
Voilà ce qui fait que vos parents fuient votre château, dont ils sont comme repoussés par votre étrange égarement. Oh, noble lord, songe à ta naissance. Rappelle à toi du bannissement tes anciennes idées, et bannis ces rêves abjects et dégradants. Vois comme tes serviteurs s'empressent autour de toi, tous prêts à ton premier signe à remplir leur office. Veux-tu de la musique?
Écoute. La musique se fait entendre.
Apollon joue, et vingt rossignols en cage chantent.
Veux-tu dormir?
Nous te déposerons sur une couche plus molle et plus suave que le lit voluptueux, dressé exprès pour Sémiramis.
Dis que tu veux te promener.
Nous tapisserons la route.
Veux-tu monter à cheval?
Nous mettrons à tes pales froids leur harnais tout chamarré d'or et de perles.
Aimes-tu la fauconnerie?
Tu as des faucons dont l'essor est plus haut que celui de l'alouette matinale.
Préfères-tu la vénerie?
Ta meute va faire résonner le firmament et évoquer les costries dans des cavernes.
Premier valet.
Dis que tu veux une chasse à cour. Tes lévriers sont aussi rapides que le cerf à la longue haleine et plus lestes même que la biche.
Deuxième valet.
Aimes-tu les tableaux? Nous t'irons chercher sur le champ un Adonis au bord d'un ruisseau et une Vénus cachée dans les roseaux que son souffle semble remuer et agacer, juste comme le vent joue avec les roseaux houleux.
Le lord.
Nous te montrerons Io, au moment où, vierge encore, elle fut séduite et surprise. La peinture est si vivante qu'on croirait voir la chose.
Troisième valet.
Ou bien Daphné, errant à travers un fourré d'épines et s'écorchant les jambes. Vous jureriez vraiment qu'elle saigne, et qu'à cette vue, Apollo désolé pleure, tant le sang et les larmes sont peints artistement.
Le lord.
Tu es un lord, et rien qu'un lord. Tu possèdes une lady bien plus belle que toutes les femmes de cet âge dégénéré.
Premier valet.
Avant que les larmes qu'elle a versées pour toi eussent inondé son aimable face de leurs flots envieux, elle était la plus belle créature du monde, et même encore, elle n'est inférieure à aucune.
Cela.
Suis-je un lord? Ai-je pour femme une lady? Est-ce que je rêve, ou bien ai-je rêvé jusqu'à présent?
Je ne dors point. Je vois, j'entends, je parle. Je sens de suaves parfums et je touche de molles choses.
Sur ma vie, je suis un lord, en effet, et non un chaudronnier, et non Christopher Sly.
Allons, qu'on amène le séant Notre-Dame, et encore une fois, un pot de petite bière.
Deuxième valet. À votre grandeur veut-elle se laver les mains?
Les valets lui présentent une aiguère, un bassin et une serviette.
Oh, que nous sommes heureux de voir votre raison rétablie! Si vous pouviez reconnaître une fois pour toutes qui vous êtes, depuis 15 ans plongé dans un rêve, et même en vous éveillant, vous restiez comme endormi.
Sly.
Depuis 15 ans? Ma foi, c'est un joli somme! Et je n'ai rien dit pendant tout ce temps-là?
Premier valet.
Oh, si, milord, mais seulement des paroles extravagantes. Quoique vous fussiez couché ici dans cette belle chambre, vous prétendiez qu'on vous avait flanqué à la porte, et vous déblatériez contre l'hôtesse du lieu, et vous disiez que vous la citeriez en justice, pour vous avoir apporté des cruches de grès au lieu de bouteilles cachetées. Quelquefois, vous appeliez Cécile Hackett.
Sly.
Oui, la servante du cabaret.
Troisième valet.
Eh bien, seigneur, vous ne connaissez ni cabaret ni servante. Et tous ces hommes que vous nommiez, comme Stephen Sly et le vieux John Knapps de Grèce et Peter Turf et Henri Pimprenel et une vingtaine d'autres individus de cet acabit, qui n'ont jamais existé et que personne n'a jamais vu.
Sly.
Enfin, Dieu soit loué de mon rétablissement.
Tous.
Amen.
Sly a un valet.
Je te remercie, tu n'y perdras rien.
Entre le page, habillé comme une femme de qualité avec sa suite.
Le page à Sly.
Comment se porte mon noble lord?
Sly.
Corbleu, fort bien, car on fait ici assez bonne chère. Où est ma femme ?
Le page.
La voici, noble lord, que veux-tu d'elle ?
Sly.
Vous êtes ma femme et vous ne m'appelez pas votre mari ? C'est bon pour mes gens de m'appeler milord. Je suis votre bonhomme.
Le page.
Mon mari est milord. Milord est mon mari. Je suis votre femme en toute obéissance.
Sly.
Je sais cela. Comment faut-il que je l'appelle ?
Le lord.
Madame.
Sly.
Alice, madame ou Jeanneton, madame ?
Le lord.
Madame tout court. C'est ainsi que les lords appellent leur lady.
Sly au page.
Madame ma femme, on dit que j'ai rêvé et dormi pendant plus de 15 ans.
Le page.
Oui, et ces 15 ans m'en ont semblé 30, ayant été tout ce temps éloigné de votre lit.
Sly.
C'est beaucoup. Laquais, laissez-moi seule avec elle. Madame, déshabillez-vous et venez vite au lit.
Le page.
3 fois, noble lord, je vous conjure de m'excuser encore pour une nuit ou deux, ou du moins jusqu'à ce que le soleil soit couché, car vos médecins m'ont expressément recommandé, sous peine de vous causer une rechute, de m'absenter encore de votre lit. J'espère que ce motif me servira d'excuse.
Sly.
La situation est telle que j'aurai grand-peine à attendre si longtemps, mais je ne voudrais pas non plus retomber dans mes rêves. J'attendrai donc en dépit de la chair et des sens.
Entre un valet.
Le valet. Les comédiens de votre honneur ayant appris votre rétablissement sont venus pour jouer devant vous une charmante comédie, d'après le conseil formel de vos médecins. Voyant que l'excès de la tristesse a congelé votre sang, et comme la mélancolie est la nourrice de la frénésie, ils trouvent bon que vous assistiez à une représentation pour disposer votre esprit à la gaieté et à la joie, qui préviennent 1000 maux et prolongent la vie.
Sly.
Corbleu, je veux bien qu'ils jouent. Une comédie, c'est des farces de Noël ou des tours de saltimbanque, n'est-ce pas ?
Le page.
Non, mon bon seigneur, c'est un divertissement de plus agréable étoffe.
Sly.
Sans doute quelque étoffe à ramage.
Le page.
C'est une manière d'histoire.
Sly.
Bon, nous allons voir ça. Allons, madame ma femme, asseyez-vous à mes côtés et laissez filer le monde. Nous ne serons jamais plus jeunes.
Ils prennent place sur des sièges.